pu donc traiter de la démocratie participative. Alors après cette, disons cette présentation, vous voyez, sans trop de transition, j'entrerai directement dans le plan de mon intervention qui, pour sa part, va problématiser le sujet. Alors la première partie porte sur qu'est-ce que la démocratie ? Il faut d'abord définir ce terme. Alors, si on arrêtait quelqu'un dans la rue, selon le fameux exercice que le fondateur de la philosophie, Socrate, faisait, et qu'on lui dise, qu'on lui demande, mais dis-toi, homme qui passe dans la rue, dis-nous, qu'est-ce que la démocratie ? Que dirait-il ? Est-ce que quelqu'un a une proposition à me faire ? Vous ne savez pas du tout ce que c'est la démocratie ? À Bolène, on ne la pratique pas. Vous m'inquiétez. Oui, allez-y.
C'est le pouvoir au peuple.
Alors, il se trouve que si on part des représentations générales de la démocratie, vous voyez, l'étymologie du terme nous indique que c'est le pouvoir du peuple. Démos et kratéo qui veut dire avoir le pouvoir, avoir la puissance. Voilà. Avoir le pouvoir au peuple, donner le pouvoir au peuple, signale évidemment que dans la notion de démocratie, il y a l'idée sociale, avant même d'être politique, d'une sorte de puissance du peuple, c'est-à-dire aussi quand même d'abord des pauvres, de la masse des pauvres. Voilà. Alors en fait, j'avance, vous voyez, par rapport à ce que vous pourriez trouver de vous-même, la démocratie désigne à la fois une forme d'organisation des pouvoirs, c'est-à-dire un régime, nous vivons dans une démocratie en France, et un type de société, une manière de vivre. Hein. Il n'y a pas d'ailleurs de société, il n'y a pas de régime constitutionnel démocratique qui existe dans le monde qui n'encadre pas un type de vie démocratique. Dans ce type de vie démocratique, on a coutume d'associer les thèmes suivants donc à la notion de démocratie, libre expression individuelle d'abord. Il y a démocratie, vous en conviendrez, quand chacun est libre de penser, voire de dire ce qu'il veut penser et dire. En tout cas, il est bien clair qu'apparaît non démocratique toute forme de régime où on n'a pas le droit de penser, ni même de dire ce qu'on veut penser ou dire, n'est-ce pas ? Alors, démocratique, c'est un adjectif qui désigne aussi le respect de la pluralité. Si, par exemple, vous vous exprimez et que je décide de manière arbitraire et unilatérale que ce type de parole, on n'a pas le droit de l'exprimer, vous allez dire, mais non, c'est pas parce que vous savez très bien ça, moi. Ben vous savez, en plus de mes défauts, je suis aussi parent, comme je le dis souvent, éleveur d'enfants, et par conséquent, mes enfants me disent souvent, papa, tu n'es pas démocrate. Bon, parce que c'est moi qui décide, en fin de compte. Mais vous voyez, j'entends bien par là le reproche qui m'est fait que le manque de démocratie dans ma gouvernance paternelle vient du manque de respect de la pluralité. Vous verrez quand vous serez parent. Donc, on associe aussi à la notion de démocratie l'idée que les choix qu'on fait sont collectifs. Alors là encore, je vais vite, mais ce sont des notions qui sont générales, ce sont même des pré-notions qu'on associe à la notion de démocratie. Si nous étions une société complète et que nous voulions nous sentir, nous affirmer comme une démocratie, hein, démocratique, nous tenterions de faire des choix les plus collectifs possibles. C'est un des choix où la notion d'inclusion ou d'englobement est fondamentale. Il faut que tout le monde puisse participer à la décision collective. Enfin, on entend par démocratie la plupart du temps, mais ça concerne plutôt la forme d'organisation que le type de société peut-être, disons un ensemble de dispositions qui fait que les décisions, les procédures ont un caractère public. Ainsi, la démocratie s'oppose à toute forme de régime arbitraire où on a une forme de choix qui est de procédures qui sont toujours discrétionnaires, secrets, cachées. Voilà. Vous voyez, on a quatre caractères qui sont, à mon avis, fondamentaux pour parler de démocratie. Libre expression individuelle, respect de la pluralité, collectivité, dimension collective des choix, enfin, caractère public des procédures. Voilà. Alors après, vous pourrez, nanti de ces éléments, savoir si vous vivez dans une démocratie au plan familial, au plan du lycée. Hein. Donc je souhaite bon courage à tous les responsables qui vous encadrent. Alors... il y a un quatrième caractère sur lequel il faut insister, qui est souvent, disons, assez présent dans l'esprit, du fait notamment de l'étymologie, hein, des termes grecs démos et kratein, kratéo. Là, il s'agit du caractère d'ancienneté de la démocratie. La démocratie a été inventée, comme son nom l'indique, donc, en Grèce ancienne, et ça correspond à une réalité précise. En effet, comme vous le voyez, à Athènes dans l'Antiquité, en gros, à partir de 500 avant Jésus-Christ jusqu'à 200 après Jésus-Christ, en très gros, eh bien, le pouvoir était confié à l'assemblée des citoyens, en grec, ecclésia. Alors, cette assemblée, elle était celle de tous les citoyens qui étaient nés athéniens. Alors, vous voyez, c'était une démocratie directe. On reviendra sur ce point absolument capital tout à l'heure. Donc, il y avait un certain nombre de citoyens qui se représentaient eux-mêmes dans l'assemblée, un endroit précis que l'archéologie a pu restituer, etc. On a trouvé des urnes pour voir comment les gens votaient sur des tessons de poterie qui avaient des noms qui étaient gravés. Enfin, toute une technique. Il y avait vous savez, pour mesurer le temps, il y avait des clepsydres, c'est-à-dire des horloges à eau qui mesuraient le temps de parole. Donc, il y avait toute une sorte de technologie qui était utilisée pour des raisons politiques dans l'assemblée athénienne. Alors, les prérogatives, les compétences de cette assemblée d'Athènes étaient les suivantes. Elle discute les lois et les votes, elle décide des dépenses publiques et des traités de paix et des déclarations de guerre, donc elle s'occupe de la politique extérieure, elle élit les 10 stratèges militaires, pour une période déterminée, il y a 10 stratèges militaires qui sont élus, et elle tire au sort les représentants au conseil, donc 500 membres, et au tribunal. Au tribunal de Lévier, il y avait un panel de 6000 jurés pour traiter des affaires judiciaires. J'attire votre attention sur le tirage au sort comme procédure de désignation des représentants. La démocratie se définit en Grèce ancienne de manière spécifique par le tirage au sort. L'idéal démocratique du tirage au sort est une véritable revendication de la part des Athéniens. Pourquoi ? Eh bien, admettons que nous soyons ici une société complète, qu'on soit la société complète des citoyens de Bolène. Rêvons un peu. Eh bien, pour les citoyens grecs, le fait qu'il y ait tirage au sort des représentants est le signe de la qualité démocratique de l'ambiance. En effet, le tirage au sort peut désigner n'importe qui d'entre vous, d'entre nous, comme représentant des autres. Vous voyez, c'est une idée très forte. Ce n'est pas une élection, c'est un tirage au sort qui va désigner les représentants. Qu'est-ce que ça suppose ? Eh bien, ça suppose que tout le monde soit égal. Ça suppose une égalité de compétences de tous les participants au corps civique. Donc, c'est une idée extrêmement forte. On va y revenir tout à l'heure. Alors, sur cette base, vous voyez, d'idées un peu générales, je vais aller assez vite, on peut évoquer trois idées plus précises maintenant pour caractériser la notion de démocratie. Alors, comme je l'ai écrit, elle se définit par l'opposition à d'autres formes de régime, et particulièrement cette forme de régime où le pouvoir n'appartient qu'à un seul, la royauté ou la tyrannie, et cette forme de pouvoir où celui-ci appartient, disons, à quelques-uns. En grec, aristoi, qui veut dire les meilleurs, les nobles, si vous voulez. Donc l'aristocratie. Deuxièmement, la démocratie repose sur ce que j'ai appelé la mobilisation la plus large possible, et vise l'appropriation collective de la discussion et de la décision. Donc il y a démocratie, si nous étions des Grecs anciens, il y aurait démocratie si nous réussissions à nous approprier collectivement la discussion et la décision. Si je suppose, vous voyez, un effort, un travail des citoyens vers la chose publique, vers les questions, disons, d'intérêt général. Donc vous voyez, la première expérience de politisation de l'humanité, j'attire votre attention là-dessus, c'est la première expérience, disons, de politisation de l'humanité, repose sur la volonté d'inclure un grand nombre de personnes dans la décision politique, dans les choix publics qui sont faits, etc. Ça, c'est un point qui est très important et qui n'a jamais été oublié. Ainsi que vous le voyez, je reviens un peu en arrière pour vous signaler que j'ai écrit juste avant que l'origine ancienne de la démocratie est une réalité historique, mais c'est aussi un souvenir persistant. Et j'ai inclus, vous voyez, une image sur la droite de l'écran, c'est l'image de quoi ? Allez. Dites. L'Assemblée nationale, la Chambre des députés à Paris. Voilà. Vous voyez que cette Assemblée nationale a la forme, esthétiquement, le choix esthétique a été fait au moment de la Révolution française, au XVIIIe siècle à peu près, eh bien, d'évoquer un temple grec avec des colonnes. Vous voyez ? Là, l'endroit où il y a les représentants élus qui, on va voir, ont certaines compétences, eh bien, le lieu de la démocratie en France évoque le souvenir très persistant de la démocratie grecque. je crois que c'est un point extrêmement fort qu'on oublie toujours. Il y a une sorte de fantasme, si on peut dire les choses comme ça, grec, à l'origine du pouvoir démocratique moderne. Voilà, alors, donc, vous voyez, dernier trait caractéristique, je reprends le fil de mon raisonnement, dernier trait caractéristique, la démocratie est un régime qui a été dénoncé par les philosophes, bon, les premiers, Socrate et son disciple Platon, comme cacophonique. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une cacophonie ? Voilà, c'est le contraire, disons, de quelque chose qui est symphonique. C'est un morceau, une pièce musicale, une bande sonore, une séquence sonore qui est extrêmement brouillée, où on ne comprend rien parce que tout le monde s'exprime. Voilà. Donc il y a une sorte même de désagrément à entendre une suite de sons qui n'ont aucun ordre, aucun sens. Ainsi, une salle de classe laissée à l'abandon devient vite cacophonique. N'est-ce pas ? Comme chacun sait. Alors, la cacophonie, vous voyez, la cacophonie démocratique était fustigée, dénoncée par les philosophes, lesquels, évidemment, rêvaient d'une société très organisée, très policée, basée sur, eh bien, chez Platon, très clairement, disons, le fait que l'on donne le pouvoir aux philosophes, qu'ils deviennent des rois. C'est le thème de Platon, des philosophes rois. Donc, Platon dénonce la démocratie, Socrate aussi, avant lui, évidemment, il est bien placé pour, comme cacophonique, comme un régime anarchique, où aucun pouvoir n'est organisé, et un pouvoir de ce fait dangereux. Alors j'ai dit que Socrate était évidemment bien placé pour savoir que la démocratie était cacophonique, anarchique peut-être, mais dangereuse pour lui sans aucun doute. Pourquoi ? Ceux qui sont en terminale parmi vous. Oui ? Voilà, Socrate a été accusé d'un certain nombre de choses par la démocratie athénienne, et il a été condamné et exécuté en buvant la ciguë. Donc vous voyez, il y a pour le philosophe un vrai danger de la démocratie. C'est aussi pour toi, sans aucun doute, il y a une critique donc que les philosophes mènent de la démocratie. Alors on y reviendra tout à l'heure. Alors, dernier point de cette première partie, en fait, ce qu'on peut dire pour synthétiser, c'est que dans la démocratie apparaissent un idéal et une difficulté. L'idéal, un idéal implicite, qui est celui notamment de mes propres enfants dans la famille, qui représente une force démocratique révolutionnaire, je le sens bien, eh bien, c'est que, du moins me dit-on, de manière assez naïve mais assez vraie aussi, une démocratie est un espace où chacun a pouvoir sur tout. C'est ce qu'on appelle, selon un terme que j'ai créé moi-même, l'omnicratie. Le pouvoir de tous sur tout. Terrifiant, n'est-ce pas ? En même temps, sans aucun doute, tentant. Le pouvoir de tous sur tout. Alors, je ne sais pas bien ce que ça veut dire, en fait. Mais je trouve ça séduisant. Et il me semble que ça recouvre l'idée, en tout cas, d'une communauté civique. Alors j'attire votre attention sur le fait que des communautés, vous en connaissez quelques-unes, celle de votre famille, celle de votre amoureux, la communauté amoureuse, celle de vos amis, la communauté amicale. La particularité d'une communauté, c'est la très grande proximité des membres les uns avec les autres. Et vous êtes d'accord que la plupart du temps, au lycée ou dans la rue, et à plus forte raison dans l'espace civique et politique, nous ne sommes pas dans une communauté, mais dans une société, où les individus sont séparés. Ainsi, il y a un lien social avec mon voisin, un lien social avec mon professeur, un lien social avec mon représentant élu. Ce n'est pas un lien communautaire. On ne fait pas partie d'une communauté. Nous ne nous sommes pas choisis intimement. Du moins, semble-t-il. Et il y a, je crois, dans l'idéal de la démocratie, dans cet idéal d'omnicratie, eh bien, le rêve d'une communauté civique, où le professeur, le percepteur, le policier ferait partie de notre famille. Vous voyez un peu ? Voilà. Donc il y a ce rêve de transformer la société en communauté civique. Et puis, vous voyez, dans cet idéal, il y a aussi une réalité que les Grecs, du moins eux-mêmes, essayaient de pratiquer, le tirage au sort des représentants. Le tirage au sort des représentants. Vous vous rendez compte, est-ce qu'il y a ici des représentants, des chefs de classe, comme on appelle ça maintenant, des délégués ? Est-ce qu'il y a des délégués ? Vous avez été élu au tir au sort ? Élu. Eh bien, on va y revenir. Imaginons un peu que dans cette société complète que nous sommes, chacun d'entre vous puisse devenir délégué. Bon, ça c'est encore bien rigolo. Mais que chacun d'entre vous puisse devenir chef d'établissement. Eh bien, nous serions la communauté civile des Grecs. Vous voyez l'effet que ça produit de se dire oulala, fini de rire, le sort peut me désigner comme étant à la tête de l'établissement pour un certain temps. Et je vais devoir rendre des comptes de mon action. voyez l'effet que ça produit quand même. Alors, la difficulté, évidemment, qui a été théorisée par la philosophie, et c'est pour ça qu'elle dénonce, vous allez voir, l'idéal, disons, démocratique, c'est que la compétence civique, le fait que l'on puisse être citoyen et représentant des citoyens tour à tour, que l'on puisse tour à tour obéir et commander, comme dit un autre philosophe, Aristote, eh bien, soit également partagée. Voilà. Les philosophes disent que non, la compétence civique n'est pas également partagée. Tout le monde ne peut pas être chef. Tout le monde peut peut-être être obéi, enfin, tout le monde peut peut-être obéir, mais tout le monde ne peut pas être chef. Il faut des talents particuliers. Voilà ce que disent les philosophes. Et ce talent, par exemple, de l'intelligence. Voilà. Tout le monde n'a pas la même intelligence et tout le monde ne peut pas, donc, être aux affaires, même si ça n'est que durant un certain temps. Donc, on reviendra sur cette idée tout à l'heure. Vous voyez, dans tous les cas, on peut résumer en disant qu'on reconnaît une démocratie au fait qu'elle lie, qu'elle met en relation très intime la liberté et l'égalité. Voilà. La liberté entendue comme une force collective et l'égalité entendue comme la capacité que chaque citoyen a d'agir pour le bien des autres. Alors, ça a été théorisé par un auteur qui est l'adversaire des philosophes, qui est un auteur qui s'appelait Protagoras. Alors, Protagoras se définit comme sophiste. Alors, le terme sophiste, il veut dire quoi de nos jours? Est-ce que vous savez? Est-ce que quelqu'un a une... Vous n'avez jamais vu le terme sophiste? Pardon? Oui, mais enfin, aujourd'hui, c'est péjoratif, c'est écrit. Mais aujourd'hui, ça ne veut pas dire expert. Aujourd'hui, ça veut dire mensonger. Ça veut dire faux et mensonger. Par exemple, si vous dites à quelqu'un, tu n'es qu'un sophiste, s'il comprend ce que ça veut dire que tu mens. Tu utilises des artifices pour m'éloigner de la vérité. Alors, si vous avez des choses à dire, j'aimerais que vous me disiez à moi. D'accord ? Merci. Alors, à l'époque donc, sophiste, ça veut dire expert, littéralement expert en communication. Un peu comme aujourd'hui, il y a des gens qui font gagner les élections aux autres, qui sont des experts en stratégie et en communication. Et les Grecs anciens étaient extrêmement modernes de ce point de vue. Il y avait auprès d'eux des experts qui donnaient des conseils pour gagner les campagnes présidentielles. Quand il y avait des élections à gagner, sur un type d'élection qu'il fallait gagner, bon, j'ai passé des détails. Et alors, ainsi, Protagoras, on n'a pas gardé un seul ouvrage de Protagoras, mais son adversaire, Platon, un des fondateurs de la philosophie, comme je vous l'ai dit, comme vous le savez, a écrit un livre qui s'appelle Le Protagoras, dans lequel il y a un morceau de la pensée de ce sophiste. Et c'est très étrange, c'est une histoire mythologique. Cette histoire mythologique qu'on appelle le mythe de Protagoras, alors, donc, qui a été réécrit par Platon, mais qui est sûrement Protagoras, c'est le suivant. Au début de l'humanité, les dieux ont donné à Prométhée et son frère Épiméthée une mission. C'est la mission de donner à tous les vivants des qualités particulières. Et Prométhée était un peu fatigué ce jour-là, Prométhée est très intelligent, Épiméthée, son frère, l'est beaucoup moins. Et Prométhée a dit Épiméthée, vas-y, fais le travail à ma place, s'il te plaît. Alors Épiméthée est allé distribuer les qualités, n'importe comment. Il a très bien organisé le règne des animaux. Ça marche très bien. Aux animaux très fragiles, il a donné la vitesse. Donc, je ne sais pas, moi, par exemple, les insectes, quoi, qui sont très fragiles mais très rapides. Aux animaux plus lents, il a donné une épaisse carapace qui fait, etc., etc. Bon, alors c'est une histoire mythologique qui nous dit que à la fin de la distribution, il y avait un problème, c'est qu'il n'y avait plus de qualité pour les humains. Et les humains sont nés sans poils, sans carapace, sans force spéciale, sans griffes. Donc ils étaient très démunis et ils mouraient de manière épouvantable. Et ça n'allait pas du tout, quoi. Les dieux avaient prévu un système qui, quand même, soit bien organisé entre tous les vivants. Alors, ce qu'a fait Prométhée, courageusement, pour compenser la bourde de son frère, c'est qu'il est allé voler le feu et les arts techniques, la technique, auprès d'Héphaïstos. Voilà. Et puis, bon, les hommes avaient les arts techniques, le feu, bon, ils pouvaient se défendre, créer des vêtements, enfin, etc., pour réussir à survivre. Simplement, ils ne s'entendaient pas. Alors, les animaux arrivaient à s'entendre, les humains ne s'entendaient pas. Donc, ce qu'ont donné les dieux, et Zeus en particulier, aux humains, ce sont des qualités morales. Ces qualités morales, c'est le sens de la justice et le sens de la honte, de ce qui est honteux. Ce qui fait que sous le regard des autres, je n'ose pas faire certaines choses. Et que je sens au-dedans de moi ce qui est juste et injuste. Alors, ce que veut dire Pythagoras par cette histoire amusante, alors qui fait beaucoup rire Socrate. Socrate dit, ouais, c'est bien rigolo ton histoire. Alors, Socrate, évidemment, c'était le maître de Platon qui a écrit le livre, et Platon se sert de cette ironie socratique pour dire, bah écoute, c'est pas bien sérieux. Moi, je pense au contraire que c'est très sérieux. Le but de cette petite histoire, si vous comprenez bien la pensée de Pythagoras, le démocrate, c'est par une image, comme on fait aujourd'hui par un petit film, par un clip, de rendre accessible à des gens qui n'ont pas beaucoup de compréhension intellectuelle quelque chose de très profond. Ce que vise à théoriser cette histoire, très démocratiquement, comme vous le voyez, en mettant à disposition d'un large public un contenu intellectuel par une petite histoire, c'est le fait que la compétence technique est affaire de talent. Ce que dit Pythagoras, c'est que quand on doit décider d'une affaire, disons, qui concerne la construction d'un barrage, la navigation, on fait appel à un expert. Cette compétence technique est inégalement distribuée par la nature. Tout le monde ne peut pas être ingénieur. Tout le monde ne peut pas être un bon artisan. En revanche, quand il est question de la compétence civique, c'est-à-dire de la manière dont chacun peut accéder aux affaires publiques, vous voyez, par tirage au sort, chacun ici peut être désigné comme chef d'établissement. Eh bien, cela repose sur le fait qu'on a des qualités morales et que ces qualités morales sont également distribuées entre les hommes. Si quelqu'un n'a pas ces qualités morales, ce n'est pas un humain. La démocratie, vous voyez, conséquence à la question à qui est-il légitime de donner le pouvoir de décision politique, pour Pythagoras, la bonne réponse est à tous. Et cette bonne réponse est bonne, elle est légitime, elle est juste, parce qu'elle est fondée sur la connaissance de l'homme. Hein? D'autre part, on ne peut pas légitimer le pouvoir de quelques-uns, ni d'un seul. Hein? Voilà. Alors, petite remarque de type culturel, ce Pythagoras, c'est un personnage historique, avant d'être un personnage réinventé par Platon, était le conseiller, donc l'expert conseiller du chef démocrate, Périclès, dont on a au moins ce portrait très célèbre, réalisé par Phidias, qui est l'emblème de la démocratie. Hein, ce Périclès était un aristocrate qui a donné le pouvoir au peuple dans l'Athènes de l'Antiquité. Alors, pour la petite histoire, il est très célèbre, il est représenté avec un casque parce qu'il avait une sorte de front un peu démesuré. Voilà. Et donc, le sculpteur qui était de ses amis et qui était payé par lui, donc, l'a représenté de manière très célèbre avec un casque. Voilà. Voilà. Donc, Périclès. Alors, il se trouve que, vous voyez, cet idéal de démocratie qui a été inventé dans la Grèce, bon, maintenant vous en savez presque autant que moi sur la démocratie, il se trouve qu'il est passé dans la modernité et que nos sociétés sont des sociétés démocratiques. Elles n'ont pas toujours été, puisqu'il y a eu toute une histoire dans laquelle interviennent un certain nombre de ruptures, par exemple la Révolution française, et avant elle la Révolution anglaise, hein, un siècle avant environ, qui vont destituer progressivement les rois pour mettre à la place les peuples souverains. Et pour retrouver quelque chose, comme vous le savez, de la démocratie, on appelle ça maintenant république ou démocratie, de manière d'ailleurs souvent synonyme. Alors, il se trouve quand même que la démocratie qui s'est imposée en Europe à l'époque moderne, n'est pas la démocratie directe des Grecs. C'est la démocratie représentative. Alors, comme dans votre assemblée à vous, il y a des représentants, levez la main quand vous voyez bien, on va procéder à une petite expérience. Est-ce que les représentants délégués peuvent se lever, s'il vous plaît? Donc, se lever. Voilà. Très bien, on vous a tous vu, merci. Merci beaucoup. Il y a une surreprésentativité féminine, je note. Et vous allez voir pourquoi, à mon avis, c'est très très important ce que je viens de dire. Alors, ça a été théorisé par quelqu'un très important pour la théorie politique, un des plus grands philosophes politiques, contemporain de Descartes, qu'il connaissait, dont on dit qu'il est le Descartes de la philosophie politique, c'est l'anglais Thomas Hobbes, qui a écrit, donc, voyez, au milieu du XVIIe siècle, comme Descartes pour la philosophie métaphysique, un livre qui s'appelle Le Léviathan. Ce Léviathan, donc, développe l'idée selon laquelle il y a une volonté commune qui est unie quand on choisit un porte-parole. L'élection, c'est le moment de constitution du corps politique. Nous ne sommes pas un corps politique avant d'élire un représentant. C'est une idée extrêmement forte qui est à la base de nos sociétés politiques. L'élection n'est pas simplement une procédure par laquelle il va y avoir un représentant temporairement élu, c'est un moment, si vous voulez, de communauté civique. Ah oui, on a des élections qui arrivent bientôt en France, au niveau du pouvoir exécutif, du pouvoir suprême. C'est un moment dont chacun sait qu'il est très important, parce que nous allons véritablement en quelque sorte, renouer le contrat social qui est lui-même fondateur du corps politique. Alors, les représentants élus ici présents ont donc un rôle fondamental. Ils donnent l'identité au corps politique qui les a élus. Ils incarnent un petit peu, en quelque sorte, leur corps politique. Celui-ci prend conscience de lui-même au moment où les représentants sont élus. Alors, l'illustration du livre de Hobbes est très intéressante à cet égard. Alors, c'est un peu grossi, hein, elle n'est pas tout à fait comme ça, l'illustration, évidemment, il y a d'autres dessins en dessous. Moi, j'ai proposé ce grossissement de l'image la plus importante, vous voyez. L'illustration de la couverture de Hobbes avait été réalisée par lui-même. Il avait demandé au plus grand graveur de son époque, Abraham Boss, de réaliser une gravure, et Boss avait produit plusieurs gravures extrêmement intéressantes. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais on a un corps politique qui est l'émanation d'un territoire, qui est le territoire anglais. Il y a des églises, il y a des champs, vous voyez, bon. Et le corps politique du grand personnage qui sort de ce territoire est composé d'une infinité de têtes. Ce sont les têtes des sujets qu'on voit. Les sujets qui forment un corps, du fait que, au-dessus de ce corps, il y a une tête, qui est le souverain. Alors, Hobbes est plutôt monarchiste, mais attention, il passe pour révolutionnaire à son époque, et il va être poursuivi par le roi d'Angleterre, qui va essayer de l'éliminer. Parce qu'il explique que le souverain doit être élu. Imaginez un noble anglais encore de nos jours, aller lui expliquer que le souverain doit être élu. C'est un sacrilège pour les Anglais, pour qui la royauté est vraiment quelque chose de supérieur. Donc Hobbes, au XVIIe siècle, commence à écrire une idée totalement révolutionnaire, qui est que le souverain est légitime si et seulement si il est élu. Mais quand il est élu, ajoute-t-il, son pouvoir doit être absolu. Et vous voyez que le pouvoir absolu, c'est d'abord l'épée de la justice, qui tranche les différends, c'est éventuellement le droit de vie et de mort, et d'autre part, le sceptre royal, qui est le signe de la légitimité, et quelque chose d'un petit peu théologique même. Et Hobbes a voulu vraiment remplacer l'Église par l'État, d'une certaine manière. Alors vous voyez en tout cas que les représentants ici élus constituent la tête du corps politique. Ils représentent, et en représentant, ils animent le corps politique. Leur action donne la vie au corps politique. Par exemple, vous représentez quelle classe, vous ? Laquelle ? Il n'y en a qu'une. Vous représentez la terminale ES. Eh bien, dans la théorie de Hobbes, la terminale ES n'a d'existence que par votre action. Voilà. Alors, j'attire votre attention sur le fait que concernant les terminologies, c'est peut-être un peu excessif. Je ne doute pas de vos talents, de rassemblement. Mais concernant d'autres échelons, par exemple l'échelon législatif des députés, l'échelon exécutif du pouvoir du président de la République, c'est sûrement un peu vrai quand même. Il y a, disons, vous voyez, dans le triomphe de la démocratie représentative, vraiment un fort privilège qui est donné à la délégation ou au mandat. Non, j'ai déjà dit ça. Attendez, je pars en arrière là. Voilà. Voilà. Il y a, si vous voulez, disons, des éléments qu'il faut mettre en valeur, comme le fait que ça sélectionne des représentants en fonction de leurs talents. L'élection, vous avez été élu, donc vous m'avez dit par une élection. Il y a eu combien de tours ? Un seul ou deux ? Deux tours. Au terme de ces deux tours, hein, dans une compétition publique, c'était public et régulier. Ça ne se passait pas au fin fond de la cour avec des bulletins dans les chaussettes. Bon. C'était public, c'était régulier, il y avait des règles. Eh bien, au terme de cette compétition publique et régulière, c'est quoi votre prénom ? Benjamin a été distingué du fait de son talent. Pardon ? C'est le seul garçon. Vous êtes dans la même classe, mademoiselle ?
Oui, je suis la deuxième.
Ok. Quel est votre nom ?
Marine.
Bon, c'est Benjamin, vous dites. Benjamin et Marine ont été distingués dans leur talent de rassembleurs, de négociateurs, et peut-être dans la confiance qu'ils inspirent. Et c'est le deuxième point. On leur fait confiance. C'est vrai, on vous fait confiance. Voilà. Voilà, vous êtes là, joli sourire, on vous fait confiance. Bon. Simplement, tout le monde en conviendra. Peut-être pour Benjamin et Marine, mais à d'autres échelons qu'on va voir, il y a un risque, c'est qu'ils utilisent leur talent pour d'autres choses que la représentation régulière, disons. Il y a des effets démagogiques qui peuvent naître de là, c'est-à-dire qu'ils peuvent obtenir certains avantages de manière un peu bizarre. Donc il y a des effets d'incarnation du pouvoir dans la démocratie représentative. Alors j'ai pris deux exemples liés à l'exemple français. Enfin, je vais y arriver moi. À l'exemple français. Dans l'exemple français, vous voyez, nous sommes donc régis par la constitution de la Ve République à partir de 1958, avec un certain nombre de présidents de la République qui sont succédés. Le premier, comme vous le reconnaissez, c'est écrit, c'est Charles de Gaulle, général de Gaulle, avec une image, vous voyez, où il incarne la République française. Hein, RF, ça veut dire, je vous rappelle, République française. C'est pas le nom de quelqu'un, hein. Ça veut dire République française. Vous voyez, le personnage, lors d'un meeting, est en train véritablement d'incarner le V de la victoire. Victoire, je vous rappelle, à laquelle il avait contribué depuis le 18 juin 40 et même avant. Donc, il a bien raison, il a quelque légitimité à incarner la victoire de la République française. Premièrement. Et le président actuel, Nicolas Sarkozy, dont vous voyez qu'il a, lui aussi, il utilise en quelque sorte son talent qui a été distingué par l'élection en 2007 pour incarner quelque chose, à savoir, je ne sais pas, moi, un certain caractère glamour, comme vous voyez, avec son épouse, dans les ors de la République. Vous voyez, je ne plaisante pas. Regardez bien, il s'agit bien d'une photo de type institutionnel, mais qui introduit un effet de brouillage, parce que dans le palais de l'Élysée, on reconnaît bien les ors de la République, avec une superbe pendule et un vase qui se reflète, qui sont posés sur une cheminée en marbre et qui se reflètent à l'infini dans un miroir. Bon, on est à son bureau de la présidence de la République. Il a donc son épouse sur les genoux, ce qui donne un effet de quoi, je dirais, de glamour, de people, de proximité, de sympathie. Vous voyez, donc on est dans un effet de brouillage du simple talent politique vers quelque chose qui excède cela, qui est sans doute plus démagogique que démocratique. C'est-à-dire, regardez comme nous sommes sympas, comme nous sommes beaux. Voilà. Bon, donc il n'y a pas de problème. Tout le monde sait ça, hein, cette peopleisation actuelle de la République, mais qui est liée, je pense, au fait que, à mesure que les gens se sentent moins investis par la politique, ils ont besoin de gens qui les font peut-être un peu rêver. Bon, on reparlera de ça tout à l'heure. C'est un des problèmes fondamentaux de la démocratie représentative. Alors, en tout cas, il y a certaines limites à la notion de représentation. D'abord, la participation des citoyens est réduite à l'expression du vote. Peut-être certains de la terminale ES ont l'impression que depuis qu'ils ont voté, ils n'ont plus rien à faire. C'est-à-dire que Benjamin et Marine s'occupent de tout. Donc, vous voyez, ça induit un éloignement des citoyens vis-à-vis de la chose publique. Les représentants deviennent des professionnels de la politique. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas. Ça pourrait l'être si vous siégiez, par exemple, au conseil d'administration de l'établissement. Parce que là, il y a vraiment un niveau technique qu'il faut avoir, et on se rend compte qu'il y a un effet de professionnalisation. Et c'est vrai, par exemple, si vous êtes un jour député, sénateur, président ou ministre, après tout, c'est possible. Bon. Eh bien, vous verrez qu'il y a un effet de professionnalisation de la politique, c'est que les dossiers sont très techniques. Donc on a tendance à se couper, peut-être, disons, des citoyens qui vous ont aidé. D'où un risque de confiscation du pouvoir, et l'action politique se trouve comme désamorcée, ce qui induit, vous voyez, une sorte de rupture des conditions d'égalité civique. On a tendance à croire que le président de la République n'est pas n'importe qui. Moi, j'ai serré la main un jour à un président de la République, j'ai l'impression encore que ma main se porte bien, vous voyez, de l'avoir serré. Alors que bon, c'est un homme comme vous et moi. Simplement, il était assez impressionnant, quoi. Voilà. On a l'impression qu'il y a une sorte d'écart qui s'accroît entre le niveau du citoyen qui est gouverné et le niveau du citoyen qui est gouvernant. Voilà. Du fait, je crois, du fonctionnement même de la démocratie représentative. Alors, voyez, conséquences. Eh bien, peut-être avez-vous déjà eu cette intuition. Il est possible de dire que la démocratie chez nous est inachevée. Certains vont même jusqu'à dire, c'est un auteur très, très célèbre, hein, qui s'appelle Pierre Rosanvallon, qui est un auteur majeur en théorie politique aujourd'hui, qui écrit ça, la démocratie est inachevée. Et c'est vrai que certains ont pu dire que la Révolution française n'est pas achevée. Elle n'est pas achevée. Elle portait en elle l'expression de la souveraineté populaire. Elle s'est transformée en mandat de représentants nationaux. C'est inachevé. Sans doute faut-il repenser le rôle aujourd'hui et l'activité des citoyens. Alors, c'est ce que certains auteurs proposent en parlant d'impératif participatif. Et dans le dernier moment de cette intervention, je vais essayer de voir si on peut accepter cet impératif participatif. Alors, ces auteurs qui parlent d'impératif participatif s'appellent, donc je donnerai leur référence tout à l'heure, Loïc Blondiot et Yves Saint-Omer, ils ont chacun écrit un livre sur l'impératif participatif. En mettant en lumière le fait que, par exemple, dans la dernière élection présidentielle, une des candidates qui avait le plus de chances de l'emporter voulait mitiger, panacher le système représentatif par un système participatif où des jurys citoyens venaient donner leur avis, venaient conseiller la candidate à la présidence. Bon, en fait, cette candidate n'a pas vraiment triomphé, d'une part, et on a pu dire que les jurys participatifs n'étaient pas très politisés. Par exemple, si j'étais le candidat et vous, le jury citoyen, vous m'auriez dit « Mais qu'est-ce que vous feriez pour les philatélistes ? Parce que moi, je collectionne les timbres. » Et vous m'auriez dit « Mais qu'est-ce que vous faites pour les collectionneurs de voitures ? Parce que moi, je collectionne les voitures. » Donc, on a pu remarquer que les jurys citoyens que Ségolène Royal voulait convoquer auprès du système représentatif avaient une tendance à la dépolitisation. C'est-à-dire que les gens ne s'intéressaient pas aux questions collectives, ils s'intéressaient aux questions privées. Les gens venaient voir la candidate pour faire un marchandage politique. C'est précisément ce qu'on veut éviter de faire dans une démocratie où l'on veut collectiviser collectiviser les choix ou qu'il y ait une appropriation collective des questions. Alors en tout cas, cet impératif participatif s'appuie sur des références internationales de manière extrêmement sérieuse. Par exemple, depuis plusieurs années, la ville de Porto Alegre au Brésil donc confie un jury de citoyens tiré au sort, la décision budgétaire annuelle. Le budget annuel est confié à des citoyens tirés au sort. Imaginez un peu que, par exemple, l'établissement, ou même simplement la classe de terminale ES, possède un budget. Eh bien, ceux qui vont décider du budget sont tirés au sort parmi la classe. Bon, voilà. Donc vous voyez, ça donne quand même, ça pimente un peu le jeu quand même. Hein? Voilà. Les attributions de biens sont confiés à des citoyens absolument tirés au sort et qui ne s'y attendaient pas du tout. Voilà. Alors il y a de nombreuses expériences aussi de conférences citoyennes sur différents thèmes où l'on convoque des gens qui veulent bien venir pour qu'ils viennent discuter et ensuite de cette discussion va naître une décision comme une loi ou un règlement. Vous voyez, de plus en plus d'innovations vont dans ce sens. Alors vous voyez, deux thèmes apparaissent, je vais en développer un. Premier thème qui apparaît comme fondamental, la délibération. Deuxième thème qui revient, que je ne développerai pas, dans ces modalités contemporaines, le tirage au sort. Alors, attendez. Est-ce que... je vais donner la définition dans la diapositive suivante. Vous pourriez me dire ce que c'est qu'une délibération. C'est un mot important qu'il faut comprendre. Par exemple, dans quel espace on délibère ? Au tribunal d'assises, voilà, le jury d'assises délibère. Alors précisément, ça consiste en quoi de délibérer dans ces cas-là ? Prendre une décision, mais comment ? Oui ? Alors, première chose qu'il faut dire, vous avez raison, on va se réunir pour discuter une question et décider. Mais vous voyez, dans le jury d'assises, c'est tiré au sort. Si vous faites partie des listes électorales régulièrement, eh bien, le préfet peut être saisi par le tribunal pour fournir des listes sur lesquelles vous vous apparaissez et vous pouvez être tiré au sort. Vous n'avez pas le droit de refuser de faire partie d'un jury d'assises. Alors personnellement, je milite pour que ce soit la même chose dans certaines décisions politiques. Il faudrait que les citoyens, tirés au sort, n'aient pas le choix et qu'ils soient obligés d'aller exercer leurs prérogatives civiques. Bon. Alors, dans la délibération, on va discuter. Sauf que, admettons par exemple que quelqu'un ait commis un meurtre affreux. Admettons aussi qu'on ait la prérogative, qu'on n'a plus en France, de pouvoir voter la peine de mort. Alors, voyez, on va délibérer. Cette discussion implique, vous le voyez, une décision très grave. La décision de donner la mort en connaissance de cause. En fonction, donc, d'une échelle, d'une balance entre le crime qui a été commis et, disons, la sanction dont on va assortir ce mauvais geste. Vous diriez que la délibération, elle repose sur quoi alors ? Qu'est-ce qui fait qu'elle est de qualité, de bonne qualité ou de mauvaise qualité ? Qu'est-ce qu'une mauvaise délibération dans un jury d'assises ? La vie d'un homme en dépend, admettons. Quand vous sortez de là, c'est clair que quelques décisions que vous ayez prises, quand vous sortez de là, qu'est-ce qui fait qu'on peut se dire, admettons, essayons de raisonner, j'ai bien agi ou j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire? Il y a un certain nombre de jurés, admettons une dizaine. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour que la délibération soit de qualité? Oui? Oui, il y a une dimension de justice, c'est-à-dire. Ouais. Mais qu'est-ce qui va se produire, on peut imaginer, qu'est-ce qui va se passer dans la discussion? On ne va pas être d'accord du tout. Qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas être d'accord? Nos passions, nos émotions, notre positionnement, finalement, vis-à-vis de la question dont on parle. Et il me semble qu'on peut arriver à cette idée qu'il y a une bonne délibération quand on arrive à une forme d'impartialité. Quand on arrive à être relativement dégagé de nos émotions et de nos passions. Quand on arrive, vous voyez, à juger en connaissance de cause, de la manière la plus impartiale possible. Parce que, vous voyez, la justice n'est pas la vengeance. La justice n'est pas la vengeance. C'est pas la peine de faire un tribunal s'il s'agit de se laisser aller ses passions et à pendre haut et court tous les gens qui nous dérangent. On est d'accord. C'est le Far West, quoi. Hein, c'est l'état de nature, c'est pas une vraie société. Voilà. En revanche, il y a une délibération. Vous voyez, quand on produit, je crois que c'est ça la définition qu'on peut donner, quand on produit une réflexion collective, à partir d'une discussion argumentée, afin de décider en connaissance de cause et de la manière la plus impartiale possible. Vous voyez ce type de définition qu'on peut donner dans une disserte de philo au terme du raisonnement. Une belle définition déjà, on dit. Bon, voilà. Des heures de travail. Alors, donc, la délibération, vous voyez, suppose que l'on respecte la pluralité des points de vue, faut que tout le monde s'exprime. Imaginons ici qu'on soit, par exemple, les deux premiers rangs en train de délibérer et qu'on décide que vous, par principe, vous n'avez pas le droit de la ramener. Ça ne serait pas très équitable. La délibération implique qu'il y a une condition d'égalité dans la parole. C'est un point très important. Deuxièmement, que les citoyens désignés, en l'occurrence tirés au sort, là, soient en mesure d'argumenter, de défendre un point de vue intellectuellement développé et consolidé. Donc ça veut dire, par exemple, que chacun d'entre vous va devoir démontrer son jugement. Et écoutez, moi, j'estime que cette personne, c'est-à-dire, j'espère que cette personne, je sais pas, moi, par exemple, a des excuses et qu'on ne doit pas trop charger la sanction. Alors, les autres vont dire, mais comment ça, quand même, tu te rends compte, c'est très grave ce qu'il a fait. Et les autres vont dire, voilà, tu dois justifier ce que tu dis. Donc, vous voyez, ça implique que chacun d'entre nous, si on se met à délibérer politiquement, puisse défendre ses idées. Est-ce qu'à votre avis, c'est le cas aujourd'hui? Non. Par défaut de quoi? Si on avait à étendre la notion de jury d'assises à la totalité du corps politique, dans une démocratie de type participatif, quel serait le problème? Trop d'opinions, et puis surtout, oui, différentes. Et puis je crois peut-être qu'on pourrait dire, ce serait des opinions. Tout le problème, c'est de passer de l'opinion à une forme de jugement intellectuel, réfléchi. Alors ça a été vraiment très 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 théorisé depuis les années 70. Par exemple, il y a un des plus grands philosophes politiques contemporains, qui est mort il n'y a pas si longtemps, qui est mort il y a 2-3 ans, qui s'appelle John Rawls, un Américain, a écrit en 1971 un livre qui a été comme une sorte de grand orage dans le ciel, alors sans nuage, de la théorie politique, si on peut s'exprimer ainsi, qui expliquait qu'il faut inventer une procédure qui réussisse à trouver des conditions d'impartialité dans, alors lui, il parlait d'attribution des biens communs, hein, des biens de base. Alors il disait, voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour établir démocratiquement des répartitions de biens de base? Par exemple, si on doit choisir ici, si on est une communauté complète, société politique, et que l'on doit décider, un exemple que je prends toujours parce qu'il est à la fois distant et proche, on doit décider des règles d'attribution des bourses d'enseignement supérieur. Ça vous concerne, hein? On a, par exemple, un patrimoine ou des richesses limitées collectivement. Hein, évidemment, c'est limité. Il va falloir qu'on décide qui a droit à avoir des bourses d'enseignement supérieur. Alors, vous imaginez comment on va être aux prises. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent vont dire, ben moi, je décide que tout le monde a droit, quel que soit le mérite et le talent, pour aller faire un petit tour à l'université. Et d'autres vont dire, ceux qui ont beaucoup d'argent, disent, oh non, les bourses, c'est pas si important, on va les réserver sur des talents, aux talents très précis. On a besoin d'ingénieurs, par exemple, donc on va réserver les bourses aux gens qui ont des talents de mathématiciens. Comment faire pour réussir à trouver une règle d'attribution équitable qui sorte de nos opinions? Alors, ce que propose John Rawls, c'est l'expérience du voile d'ignorance. Alors, oui, on va décider tous ensemble, là, on va faire l'expérience, on va décider tous ensemble de savoir comment on attribue, on va trouver les règles pour savoir comment on attribue les bourses d'enseignement supérieur. Eh bien, Rawls nous propose que nous réfléchissions, en faisant abstraction de notre âge, de notre niveau de revenus et de fortune, et de nos intérêts particuliers. Donc nous allons choisir des attributions concernant, par exemple, des sommes d'argent, sans savoir si nous-mêmes, nous sommes riches ou pauvres. Pour moi, qui suis plus âgé que vous, sans savoir si j'ai un ou plusieurs enfants et si je suis riche ou pauvre. Vous voyez, ça change tout. Je vais devoir, dit Rawls, réfléchir de manière abstraite et universelle. Eh bien, vous voyez, dans ces conditions, on va réussir à s'entendre, puisqu'on va statuer non pas sur nos situations sociales, mais sur l'humain lui-même, sur les finalités qui peuvent être celles de l'humain, de manière abstraite. Et puis, quand on aura déterminé des règles, eh bien, on acceptera la procédure collective et surtout, on retrouvera nos particularités. Et là, je me rendrai compte, par exemple, que moi qui suis assez pauvre, j'ai, par exemple, 8 enfants. Ça tombe bien, j'ai été très généreux dans l'attribution. Vous voyez ? Mais je peux aussi me rendre compte que j'ai raisonné abstraitement, universellement, alors qu'en fait, ça ne m'avantageait pas. Vous voyez, c'est quand il y a finalement ce sentiment de décalage par rapport à celui que nous sommes initialement qu'il y a véritablement des libérations. Vous voyez, fondamentalement, ce qu'on entend par démocratie participative, alors j'attire votre attention sur le fait que c'est sans doute amené à réformer progressivement la démocratie représentative. Vraisemblablement, ou bien il n'y aura plus de politique, ou bien il y aura de la politique de ce type-là dans les années qui viennent. Eh bien, c'est ce type de délibération qui est amené à remplacer la démocratie représentative. Ou alors, celle-ci va être vraiment confisquée de plus en plus. Alors, d'où ma conclusion. Vous voyez, le renouveau de la démocratie participative, si on peut en attendre un, repose sur la volonté de redonner à l'espace public un rôle politique. Actuellement, l'espace public a un rôle politique, mais il est mineur. C'est un rôle de communication politique par le gouvernement. C'est un rôle aussi de divertissement. L'espace public a un rôle de divertissement. Bon, vous utilisez Internet pour devenir des bons citoyens, critiques, conscients, réfléchis, ou pour vous divertir? Bon, généralement, le pourcentage, il est vite vu quand même. Hein. Voilà. Et moi, le premier d'ailleurs. Donc. Alors, d'autre part, les médias traditionnels et justement les nouveaux moyens d'expression et de communication, comme Internet, ont leur rôle à jouer dans ce processus. On peut dire aussi que depuis l'Antiquité, on sait qu'une démocratie se reconnaît à la qualité de son espace public et que c'est les citoyens qui possèdent la clé du problème. Alors, pour aller plus loin, voilà des références que vous retrouverez sur le site, celles de Saint-Omer et Blondiot et le dernier livre que j'ai écrit, l'excellent livre d'ailleurs, que vous pouvez consulter. En tout cas, je vous remercie de votre attention et nous allons pouvoir passer aux questions. Je pense que vous êtes tous prêts à faire la révolution. La révolution. Et à abolir le mandat des représentants qui ont capté indûment le pouvoir grâce à leur charisme démagogique. Est-ce que vous avez fait campagne, les délégués, pour être élus? Alors, ou alors est-ce que, ça arrive parfois, personne n'était candidat? Il y avait des candidats. Donc vous avez dû entrer dans une compétition. D'une certaine manière. Bon, d'une certaine manière. Alors, figurez-vous que pour ma part, j'exerce un mandat, plusieurs. Je suis président d'une association, mais ça personne ne voulait présider, c'est trop d'ennui. Mais je suis aussi vice-président d'une université, et là il y avait beaucoup de candidats. Parce qu'on a, apparemment, on a un peu de pouvoir. On a beaucoup plus d'ennuis, mais on a un peu de pouvoir. Et j'ai dû faire une campagne. Au terme de cette campagne, j'ai eu l'impression, quand j'ai été élu surtout, quand j'ai obtenu la distinction, quand on m'a dit, ben voilà, de manière anonyme, les membres du conseil d'administration ont voté pour toi. J'ai senti en moi une transformation. En effet, le mandat dont je suis investi me responsabilise. Le mandat me responsabilise. Je me sens plus responsable qu'avant. Je fais moins le clown. J'essaie, hein, c'est difficile, mais j'essaie de me tenir davantage. Je sais que mes faits et gestes représentent mon institution. qui est une grosse université de Grenoble. Je fais attention à ce que je fais. C'est pas vous, non? Non? Ça ne vous sentez pas encore à votre niveau? Bon. Admettons que vous deveniez maire de Bolène. Ah. Voilà un mandat. Voilà un mandat. Un mandat important en France. Représentant d'une commune. Bon. Vous voyez, je crois qu'il y a, pour lancer la discussion, quand même deux tenants là, deux positions, on peut vraiment les tenir l'une et l'autre, elles ont des avantages et des limites respectives. Ou bien on dit que le mandat a une valeur, c'est-à-dire qu'il rend vraiment les gens plus responsables. Ou bien on dit que le mandat appauvrit la relation politique, parce qu'il va donner le pouvoir à certains et pas à d'autres. Et dans ce cas-là, on est plutôt pour la démocratie participative, où il y a une sorte de prise directe permanente entre les représentants éventuellement tirés au sort et le groupe qui les a tirés au sort. Vous voyez, moi je suis très partagé. Et dans le livre que j'ai écrit là, on me l'a beaucoup reproché, je fais un bricolage entre les deux. On m'a dit, ça ressemble à Ségolène Royal. J'avais pas du tout pensé que ça ressemblait à Ségolène Royal, ce que j'avais écrit. J'ai essayé de trouver un mélange entre la démocratie représentative, où le mandat il a quand même une valeur, et la démocratie participative. Alors j'ai trouvé un système, j'écrirai ça dans la suite, peut-être il faut revenir à un tirage au sort généralisé des représentants. Tirage au sort des représentants, et chacun, un jour, peut être représentant de quelque chose. Par exemple, vous, mademoiselle, un jour, vous pouvez très bien, et oui, à la place de Marine, être déléguée. Vous vous rendez compte? Eh bien si, ça produira sur vous probablement des changements. Vous direz, voilà, bah, tiens, d'abord, je m'en sens capable. Je croyais pas que j'en étais capable. Oui, voilà, mais mettons. Voilà. Eh bien, si vous voulez, moi ce qui me gêne toujours, c'est que si on dit que vous n'avez pas les talents pour être délégué, ça rompt le pacte d'égalité. Et c'est embêtant. Moi je vous vois, vous êtes, écoutez, c'est parfait. Non, ce que dit Protagoras, le sophiste, qui a été tellement critiqué par les philosophes, moi je crois qu'il y a une très forte idée, tout le monde a les capacités de s'occuper de politique, c'est-à-dire s'occuper des affaires d'intérêt général. Tout le monde a les capacités. Si vous, par exemple, vous avez une limite dans tel ou tel domaine, par exemple dans la comptabilité, la gestion, domaine très sensible, et vous allez demander à quelqu'un de le faire, que vous allez essayer de contrôler. Vous allez avoir des experts, mais la décision politique, elle vous appartient. Vous voyez, je pense que chacun doit pouvoir un jour ou l'autre être, je ne sais pas, admettons, mandaté pour être député, aller faire un tour à l'Assemblée nationale pour voter des lois. Bon, vous êtes jeune, vous, mais admettons qu'on mette le seuil à 35 ans, 30 ans. Et voilà, toutes les personnes de plus de 30 ou 35 ans pourraient peut-être un jour siéger dans l'Assemblée nationale. Alors, ce que ça permettrait de faire, c'est une élévation du niveau de responsabilisation et une élévation du niveau technique des gens. C'est-à-dire que les lois, c'est quand même technique, par définition.
Oui, mais vous donnerez le pouvoir à n'importe qui.
C'est ça la démocratie, c'est donner le pouvoir à n'importe qui.
Oui, mais ça joue sur tout le monde, et à ce moment-là, ça peut être défavorable à beaucoup de gens, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment irresponsables et incapables de faire
ce genre de... Mais sur quels critères vous dites ça?
Péjoratif, ce que je veux dire, mais quelqu'un qui est déficient mental. Ah bah. Je ne peux pas avoir des responsabilités.
Oui, non, mais d'accord. Non, mais d'accord.
Voilà, d'accord.
Mais vous savez. Non, mais moi, ce que je sais aussi. Non, mais ce que je sais aussi, c'est que dans les régimes dictatoriaux et totalitaires, par exemple, dans le régime communiste, la qualification de déficient mental était attribuée à tous les opposants politiques. Donc ça me gêne un peu ce que vous dites. Mais oui, non, mais il faut être. Attention, vous voyez, c'est quoi être déficient mental? Globalement, il y a très peu de déficients mentaux quand même. Bon, des fois j'en doute, mais quand même. Comme représentant élu, on s'intéresse au dernier des citoyens, même celui qui ne prend jamais la parole, vous allez aller le voir et dire Benjamin et Marine, mais toi, tu parles jamais, donne-moi ton avis. Enfin, c'est ce que vous avez intérêt à faire, quoi, quand même. C'est votre mandat. Voilà. Et il y a donc l'idée, vous voyez, d'une sorte de prise de conscience collective qui, si on le fait bien, disons les choses, fait moralement progresser l'humanité. Que chacun s'exprime est extrêmement important. Bon, moi je crois pas du tout qu'on soit pas compétent. Je pense que sauf de très rares cas, on est compétent. Et peut-être j'inverserai ce que vous dites, de manière un peu offensive en disant, c'est justement ceux qui veulent capter le pouvoir qui sont plus incompétents. C'est celui qui a le plus envie d'avoir le pouvoir qui est souvent, entre guillemets, le moins compétent. Parce que son appétit féroce de pouvoir aurait tendance même à le rendre suspect, voire à le disqualifier d'occuper cette place pour redonner le pouvoir aux autres. Un bon chef démocratique, c'est quelqu'un qui écoute ce qui se dit et qui redonne le pouvoir aux autres par son action. Un mauvais chef, c'est quelqu'un qui fait semblant de vous écouter, mais qui agit pour son compte personnel, par ambition personnelle, voire par intérêt. Bon. Moi, je crois vraiment à ce que je dis là. Méfions-nous des gens qui disent, il y a beaucoup de gens pas compétents. Moi, je crois qu'il y a plus de gens compétents qu'on croit, mais ça suppose un effort. Ça suppose qu'on s'intéresse à ce que, au monde, quoi. Et voilà, tiens, pourquoi c'est comme ça et pourquoi on ne ferait pas autrement? Voilà. Donc, vous n'êtes pas encore majeur, si? Ah, vous avez voté, là? Hein? Ça y est, votre choix est fait, ça y est, vous avez compris? Non, vous voyez, après, on va aller voir, moi je vais voir systématiquement les candidats qui passent à proximité de chez moi, et je leur pose des questions. Et voilà, je pose des questions qui sont des questions embarrassantes parfois, mais gentilles toujours. Il y en a vous qui vous présentez, vous, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Et puis pourquoi vous vous présentez? Après tout, pourquoi vous vous présentez? Pourquoi vous seriez mon représentant? Sachant que quand il sera mon représentant, même si je n'ai pas voté pour lui, ce sera véritablement mon représentant. Donc c'est important quand même. Moi, j'aimerais pas qu'un représentant me fasse honte. Vous avez pensé à ça quand vous avez élu vos délégués? J'aimerais pas qu'il me fasse honte, mon représentant. J'aimerais pas qu'il me fasse honte. Ouais. Oui.
C'est
une très bonne question et elle est très importante parce que je crois qu'on est un peu à la croisée des chemins. D'un côté, il faut bien reconnaître, Internet produit une élévation du niveau. C'est incontestable. Il y a beaucoup plus de gens qui savent davantage de choses. Ils le savent sans doute moins précisément. Internet privilégie un type de rapport à l'image, à l'énoncé un peu flottant, qui fait qu'autrefois la culture des livres faisait qu'on allait beaucoup plus à fond dans l'argumentation. Donc c'est l'ambiguïté d'Internet aussi de proposer des contenus flottants très démagogiques, avec notamment une baisse de l'attention générale. Un livre, il faut quand même s'accrocher pour le lire, même s'il était réservé à un nombre relativement limité de personnes par rapport à Internet, où on a beaucoup plus d'énoncés, plus flottants. Bon. Simplement, le niveau monte quand même. On pourrait dire d'une formule du philosophe Marcel Gaucher, le niveau monte, le livre baisse. Ce qui est un peu inquiétant. Bon, quoi qu'il en soit, il y a de nouveaux moyens. D'un autre côté, c'est pas tellement ces moyens considérés comme moyens d'information qui sont intéressants, mais comme moyens d'expression. Il y a de nombreuses expérimentations qui sont tentées dans le monde, notamment dans les pays où il y a des problèmes pour réunir les personnes, pour participer à des décisions collectives par Internet. Alors il y a un certain nombre de forums, par exemple, bon, un peu partout dans le monde. Mais je pense particulièrement à une initiative qui s'est produite dans les pays baltes. Dans les pays baltes, il y a un dispositif, je ne sais plus lequel des pays baltes, hein, je crois que c'est Estonie ou Lettonie, je ne sais plus. Un dispositif où chaque ministère possède un service qui le tourne vers l'extérieur. Ce service est un service de webmaster. Les citoyens de ce pays ont le droit de proposer une réforme de telle ou telle loi au ministère concerné en proposant un texte sur la base d'un texte, vous savez, élaboré collectivement. Un texte wiki. Donc les citoyens distants vont se connecter pour, sur le forum, proposer des versions amendées, des versions plus 1, plus n, du texte constitutionnel que le ministère aura 3 mois pour accepter ou refuser. Mais s'il le refuse, il doit le justifier. Alors voilà typiquement une procédure d'écriture collective de la loi. C'est incroyable quand on y pense. Une procédure participative d'écriture en direct de la loi, entérinée, discutée par les pouvoirs publics, dont c'est la responsabilité d'accepter l'expression citoyenne. Alors là, vous voyez, on a affaire quand même à une ambition politique incroyable, Alors, dont on me dit, spécialistes des Pays-Baltes, qui me disent, ouais, ça concerne un minimum de citoyens. Oui, mais enfin bon, s'il y a la possibilité constitutionnelle. Après, il y a toujours des gens pour dire, on n'est pas compétent, on n'a pas intérêt à le faire. Mais enfin bon, si c'est que ça concerne progressivement des thèmes d'intérêt très, très élevé comme les retraites, comme l'éducation, comme la défense, il est évident que les citoyens vont se sentir motivés, comme la représentation nationale. Vous voyez, voilà une illustration d'une utilisation responsable et remarquable d'Internet dans un sens civique. Bon, alors je ne sais pas si le ministère bloque le texte. Alors je crois qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes qui se connectent pour que ça fonctionne. Il faut qu'il y ait vraiment une activité citoyenne. Il faut un quorum. Je ne suis pas sûr que le ministère respecte tout ça. Donc est-ce que ça ferait la révolution dans ce pays s'il n'y avait pas... Vous voyez, après, il y a des effets de politique réels. Mais je crois que les nouveaux moyens, de manière extraordinaire, changent d'échelle aussi la politique. On a eu un découpage territorial en départements, puis en régions, toujours sur la base d'une centralisation du pouvoir en France et dans différents pays en Europe, mais surtout en France. Internet produit une décentralisation générale et je crois que l'intérêt, c'est aussi à terme, projetons-nous dans quelque chose de raisonnable, dans 150 ans, dans 200 ans. Est-ce qu'on a des moyens pour produire un gouvernement mondial? C'est peut-être ça l'enjeu aussi. Internet est pertinent au niveau européen, au niveau fédéral, il y a aussi des tas de procédures au niveau européen. Mais plus largement, il y a une sorte de conscience monde qui se développe, qui n'est pas encore politique, mais qui, je crois, donne une idée à l'humanité de ce qu'elle peut être. Il n'y a jamais eu de sujet politique humain uni. Il n'y a jamais eu de conscience universelle politique. Peut-être qu'il y en aura une, allez, dans 200 ans. Nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants, peut-être, seront les citoyens d'un État mondial qui fonctionnera de cette manière-là, avec des moyens technologiques qu'on ignore encore, mais dont on a un peu une idée. Voilà. Mais enfin, bon, ce que j'aimerais savoir, moi, quand même, je vous vois là, mais moi, il y a longtemps que je n'ai pas vu le lycéen. J'étais prof en lycée il y a 10 ans environ. J'ai quelques spécimens à la maison, mais c'est quand même pas pareil. Ils sont très politisés, les miens. Ils pensent qu'à ça. Je ne sais pas pourquoi, plus que moi encore. C'est bizarre. Mais est-ce que la politique vous intéresse ou pas? Et pourquoi elle vous intéresse pas? Alors, levez la main pour me dire pourquoi ça ne vous intéresse pas et dites-moi un peu de manière argumentée. Non, allez-y, c'est intéressant. Alors, qui s'exprime? Mademoiselle au premier rang. Là, vous, avec des lunettes. Vous êtes intéressé ou pas par la politique? Et pourquoi? Non mais c'est intéressant de s'intéresser à son manque d'intérêt, si vous voulez. C'est pour ça que c'est bizarre comme procédure, mais dites-moi. D'accord. Vous êtes majeur? Vous payez des impôts? Non. C'est pour ça. Elle ne paye pas d'impôts. Quand elle va payer les impôts, elle va dire, mais ils vont où mes sous? Tiens, par exemple, il y a des sites anglo-saxons extraordinaires. Nous, en France, on a un mal fou avec ça, qui concerne ce qu'on appelle l'open data. L'open data, c'est l'ouverture des données publiques, numériques publiques. La Commission européenne a fait injonction à l'État français d'ouvrir toutes ces données numériques. Donc, il y a des sites anglo-saxons, par exemple, pour le Royaume-Uni, où on peut voir où vont les impôts. Donc, c'est des sites interactifs, on a un curseur, on déplace des flèches, et on se dit, ben voilà, en 2006, il y avait tant de pourcents, si je donne, par exemple, 1000 euros d'impôts, il y avait tant de pourcents qui allaient à la défense et tant de pourcents à l'éducation. Je déplace le curseur vers 2011, ben, il n'y a plus que tant de pourcents pour l'école et tant de pourcents pour la défense. Et en tant que citoyen, il y a des instruments d'information active qui font qu'on va être en prise avec la politique. Il y a aussi des sites extraordinaires, il y en a un en France en particulier, où l'on peut savoir ce que fait votre représentant. Combien de fois votre député a-t-il été siégé, vous a-t-il représenté à Paris? Sur quelles questions s'est-il exprimé dans l'année? Moi, j'ai pu découvrir que mon député est un très bon député. C'est le troisième plus présent et c'est le deuxième qui pose le plus de questions. J'ai dit, voilà. Internet. Grâce à Internet, je le sais. Voilà. Et donc, vous voyez, je m'intéresse à la politique parce que je m'intéresse à la personne qui me représente. Donc, essayez de rencontrer vos élus. Le maire, vous êtes. Assistez à un conseil municipal. Bon. Bah oui. Et c'est important parce que sinon les décisions elles sont prises sans vous. Les gens prennent des décisions pour vous, c'est quand même embêtant. Moi, j'aimerais bien quand même avoir un peu prise sur... Dans ma vie, en général, on ne prend pas les décisions pour moi. Sauf ma femme. Donc, mais c'est une communauté, c'est pas, dans ce cas-là, c'est pas politique. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles vous n'aimez pas ou vous ne faites pas de politique ?
On a l'impression d'être délaissé par la politique
des jeunes. Il dit que la politique, il a l'impression que la politique le délaisse et que les jeunes ne sont pas concernés. Alors, je vous retournerai la question, est-ce qu'il y a des problèmes spécifiques des jeunes, selon vous ? Bon, l'éducation, d'accord. Ouais. Mais je crois aussi, par exemple, que concernant le chômage des jeunes, c'est une préoccupation majeure des politiques, quand même. Par exemple. Vous pouvez pas dire ça. Bon. Non, voilà, bon. Je crois que... Non, mais il y a un temps pour tout aussi. Peut-être quand on est jeune, on a le droit de s'amuser, quoi. Et c'est vrai que la politique, avec son cortège, vous voyez, d'ennuis, quoi, de soucis, quoi. Il faut être capable de dire non à des gens, faire des arbitrages, etc. C'est pénible. C'est vrai, je peux comprendre ça... Ça soit un manque d'intérêt, mais ce que je pense aussi, c'est que vous êtes quand même l'avenir de la France. C'est beau comme formule, hein. Et que, du coup, c'est quand même super important si vous vous dites, je vais militer dans un parti, je vais m'engager politiquement, au-delà peut-être d'un parti, parce qu'il n'y aura pas de liberté publique sans personne capable de s'engager. Et c'est, moi je vends rien, hein, vous avez compris. En revanche, je crois que la chose politique est une chose extrêmement importante. Alors vous disiez, on n'a pas confiance. Qui c'est qui disait ça ? Bon. Et alors, vous avez quelque chose de plus. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas confiance ? Enfin, vous pouvez argumenter un peu votre propos ? Alors, bon, moi, j'ai plusieurs choses qui vont dans votre sens. C'est vrai que faire de la politique, c'est pouvoir être élu. Et comme le disait, vous savez, Daniel Cohn-Bendit, qui est député européen, et avant cela était un animateur de Mai 68, il disait, faire de la politique, c'est d'abord affaiblir son adversaire. Il y a une compétition, quoi. Faire de la politique, c'est affaiblir son adversaire. Pour l'affaiblir, il faut capter les voix. Comment on capte les voix ? Eh bien, en essayant de contenter un peu tout le monde, malheureusement, dans le discours politique. Plus on s'adresse à un nombre élevé de personnes, c'est une règle de communication, moins le propos est précis. Évidemment. Et plus il est flottant, et plus de gens peuvent plus ou moins se reconnaître en lui. Le député, à plus forte raison le président de la République, qui va s'adresser à un échantillon de population plus large, a tout intérêt, malheureusement, le candidat a tout intérêt à avoir des énoncés un peu flottants, qui parlent un peu à tout le monde. Voilà. Donc évidemment, quand on est un petit peu, comme vous manifestement, subtil et plein d'esprit critique, eh bien, on va se dire « il est en train de me mentir ». Eh bien, moi, je vous dirai quelque chose, mesdemoiselles et messieurs. Je suis un spécialiste d'un auteur horrible qui s'appelait Nicolas Machiavel. Eh bien, la lecture approfondie de Nicolas Machiavel m'a convaincu que si mon homme politique préféré n'est pas capable de me mentir, je ne voterai pas pour lui. Le mensonge est une vertu en politique. S'il ment, c'est qu'il est peut-être capable d'avoir des idées qui vont au-delà des miennes et il ne peut pas me les dire parce qu'il va me choquer. Il y a des fois des positions politiques où il faut peut-être pas dire toute la vérité. Alors c'est embêtant. D'où la confiance. D'où la confiance. La confiance que l'on peut faire à un homme politique concerne éventuellement sa face sombre. Alors vous voyez, je ne vous l'ai pas dit dans la présentation qui était quand même sur ces aspects plutôt superficiels. Mais c'est quoi un bon représentant ? De Gaulle, c'est typiquement la personne qui a plusieurs fois menti aux Français. Sur l'Algérie française, par exemple. C'est celui qui a... a commencé à rendre l'Algérie aux Algériens, tout en disant aux Français, aux pieds noirs, etc., je vous ai compris, c'est-à-dire je vais garder l'Algérie. La grandeur d'un homme politique repose aussi sur sa capacité, parfois, à dissimuler la vérité. Donc vous voyez, c'est bizarre la confiance en politique. Dans la confiance en politique, il y a celle qui est accordée, le crédit qu'on met à un talent supérieur, en disant, ce type-là est plus fort que moi, il est plus malin que moi, il comprend des choses que je ne peux pas comprendre. Et donc, sur le jeu d'échecs de la prise de pouvoir, c'est à lui que je donne mon suffrage. Parce qu'il est plus malin. Parce que dans la compétition qui nous oppose aux Américains, aux Chinois, il va réussir son coup. C'est complexe, hein ? Il y a une face sombre du pouvoir.
justement, les gens veulent que vous ayez, vous permettez que le corps électoral, tout le monde est capable d'être élu et de faire la politique, mais vous ne dites pas qu'il y a un contre-pouvoir pour que justement cet homme politique en qui on a placé notre confiance, on vérifie quand même qu'il ne va pas trop loin dans son contre-pouvoir.
Voilà, très bien. Non, mais très bien. Il est clair que la notion de participation, disons, je ne l'ai pas développée, mais accrédite cette possibilité-là. Parce que j'ai cité tout à l'heure Pierre Auzan-Vallon, il a écrit un livre qui s'appelle La contre-démocratie. Et il dit, bon, très bien, la démocratie représentative, bon, d'accord, ça se confond avec l'émergence de la modernité, bon, pour des raisons complexes liées à la sortie de la féodalité. Les premiers élus étaient des nobles. Bon, ils savaient lire et écrire, les autres non. Simplement, il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs. Et il faut que ces contre-pouvoirs soient formés. Il faut que le niveau monte. Vous voyez, d'un côté, je peux me tirer de la contradiction dans laquelle je viens de me mettre en vous disant que d'un côté, ce talent politique, moi je crois qu'il peut exister. Il y a des gens plus malins que les autres, plus rapides, plus joueurs, qui ont peut-être plus d'ambition aussi. D'un autre côté, il est nécessaire qu'on ne les perde jamais de vue tout de même, qu'ils soient sous contrôle démocratique. D'une manière ou d'une autre, par exemple, il y a une procédure très simple qu'on oublie toujours, qui est la reddition de comptes. Elle existe chez nous. À la fin de son mandat, peut-être vous le savez, le président de la République rend des comptes sur sa fortune personnelle, pour qu'on voit s'il s'est enrichi ou pas. Voilà. Donc on peut savoir, on va savoir bientôt, si Nicolas Sarkozy s'est enrichi personnellement ou pas. Il y a une enquête qui est menée là-dessus sur son patrimoine. D'un autre côté, la presse doit avoir ce rôle de relais d'information, etc. D'un autre côté, la reddition de compte peut concerner telle ou telle action. Par exemple, c'est ce qu'a prévu Ségolène Royal, une reddition de compte à mi-mandat. C'est-à-dire de dire pas seulement les comptes personnels, mais rendre des comptes sur son action. En disant, voilà, je m'étais engagé à faire telle ou telle action, j'ai fait telle action, je ne suis pas allé au bout de telle autre. Ça, il y a une mise sous contrôle par les citoyens du représentant. Alors la difficulté, elle est que si on fait ça, il n'aura plus d'autonomie. Voilà. Et on va peut-être pas avancer collectivement si tout le monde surveille tout le monde. Voilà. Donc vous voyez, la confiance, entendons-nous sur la confiance, c'est quelque chose de compliqué. Oui.
Vous parlez de l'acheter des impôts, pas forcément présent pour les jeunes, mais parler de la retraite, enfin, parler des jeunes. Mais on parle surtout du chômage, enfin, des gens qui peuvent travailler encore plus tard, donc ceux qui travaillent plus tard, donc prendre un peu le travail que les jeunes sont censés prendre au moment où ceux sont, où les autres sont censés partir en retraite. Donc c'est un peu le plus total.
C'est-à-dire, si vous voulez, il faut bien reconnaître une chose, c'est que le métier politique implique de gérer des complexités effarantes, là actuellement. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de dossiers très complexes qui sont liés à la question sociale, en particulier au fait que l'emploi est rare et que la pyramide des âges n'est pas du tout favorable à des retraites faciles, etc. C'est des problèmes très complexes. Du coup, certains ont pu écrire, par exemple, en fonction de ce que vous venez de dire, que la France était devenue ingouvernable. Et que les meilleurs esprits avaient une meilleure chose, enfin, la meilleure chose qu'ils avaient à faire, c'est de ne pas faire de politique. Alors c'est embêtant parce que la complexité de nos sociétés, qui est sûrement bien plus élevée que celle des sociétés grecques, soit dit en passant, les sociétés grecques étaient très complexes par rapport aux sociétés d'avant. Eh bien, cette complexité est-elle ou non, si vous voulez, enfin, elle est un défi pour une meilleure organisation politique, mais justement, c'est un défi. À mon avis, le fait même que vous ayez ce souci vous qualifie pour proposer une réforme au travail. Oui, vous avez raison, c'est un vrai problème. La durée du temps de travail par rapport à l'entrée sur le marché de l'emploi raréfié, de classes d'âge, etc., etc. Voilà, comment faire? Je pense, vous voyez, qu'il me semble, et on trouve la mobilisation collective de la démocratie et d'Internet communément, il me semble que l'intelligence collective est plus forte que l'intelligence particulière, individuelle. Ouvrez une consultation sur Internet. Rassemblez-vous avec vos camarades dans un club politique qui s'appellerait Jeunesse et Retraite, je sais pas, quelque chose comme ça, voilà. Créez une association et vous verrez que on peut trouver sans doute des solutions à notre complexité. Moi, j'ai un peu peur que la démocratie représentative conjuguée aux attraits d'Internet désamorce complètement la vie commune au profit du divertissement. Moi, c'est Matrix la suite. Hein. La suite, c'est Matrix. Tous connectés à des consoles. Et vous voyez, la matrice pour tous, comme on disait autrefois, Dieu pour tous. C'est un peu inquiétant quand même. Hein. Du fait même de la grande difficulté qu'il y a effectivement à penser la complexité politique. Et au peu de retour qu'on a, parce qu'un homme politique, faut, c'est mieux de faire des affaires en général. Le commerce, c'est plus sécurisant, malgré les risques qu'on prend quand on en fait, que la vie politique. Hein, voilà. Il n'empêche que cette vie politique implique, je crois, une richesse collective qu'il faut retrouver. Voilà. Oui ?
Est-ce que vous pensez que le fait d'intégrer l'éducation du vote dans un pays démocratique...
Est-ce qu'on peut avoir un... C'est une bonne question, on n'entend pas. Hein.
Est-ce que vous pensez que le fait d'imposer l'éducation du vote dans un pays démocratique comme la France, ça peut nuire à la démocratie ?
L'imposer comment ? Rendre obligatoire l'exercice des droits civiques. En Suisse, les droits civiques sont obligatoires. Je pense que on pourrait imaginer un certain nombre d'obligations en disant voilà, pour les 5 prochaines élections, vous avez droit à un seul joker pour aller voir vos amis le jour de l'élection. Vous promenez quoi. Sinon, vous devez non seulement voter, mais aider à tenir le bureau de vote. Moi, je suis pour l'obligation des droits civiques. J'ai un petit blog de philosophie politique où je développe notamment un texte sur l'obligation des droits civiques. L'obligation dans l'exercice des droits civiques. Je pense que ce n'est pas une grande obligation, mais il n'y a pas de raison, puisqu'on bénéficie de la possibilité de s'exprimer et d'agir politiquement, qu'on n'utilise pas ce droit. La démocratie représentative n'a aucun sens avec un taux d'abstention élevé. Bon.
Est-ce qu'en Suisse, on vote sur le temps de travail ?
Alors, je crois que c'est ça aussi. Je crois qu'il y a un certain nombre de modalités assez différentes qui fait que l'obligation, elle est gérée autrement. Voilà. Et on est dans une société, disons, basée sur un socle culturel de type protestant, où le regard des autres est très important. C'est assez différent du système basé sur les mœurs, disons, d'origine plus catholique, où on est habitué à une église ou un état tutélaire qui règle tout, avec des indulgences fortes, et une forme de corruption, d'indulgence à l'égard de la corruption. Où on aime bien les prélats un peu corrompus, les cardinaux occultes. Voilà. Et à la France, c'est pas simple pour ça. Hein. Les mœurs sont des mœurs catholiques corrompues. Globalement, même si on ne croit plus tellement en Dieu, même si on n'est plus tellement catholique. Mais on est habitué à un État tout puissant et lointain. Alors que dans les pays de tradition anglo-saxonne ou réformée, protestante, donc pays anglo-saxon ou la Suisse ou l'Allemagne, on est très proche de son député, de son représentant. La gestion politique est beaucoup plus proche, de proximité. Voilà. Les conseils municipaux sont très fréquentés. Mais aller au conseil municipal, on a le droit, c'est public. Hein. Il y a des petites règles, mais on est là. C'est intéressant de repérer les discours, de dire tiens, il dit ça, mais tiens, je l'entends dire autrement. Aller demander à la personne, mais vous avez dit autre chose l'autre jour. Ah oui, non, mais bon. C'est très intéressant et du coup on comprend mieux ce que c'est que la politique. Des fois on négocie avec des intérêts, on est obligé, des fois on est ferme avec ses intérêts. Enfin, c'est un jeu quoi, c'est le grand jeu quand même. Vous voyez ? Et je crois qu'on peut l'étudier, donc il y a ce fameux institut d'études politiques qui permet d'étudier ça, mais on peut l'étudier aussi par soi-même. Hein. Vous voyez ? En tout cas, si vous ne vous y intéressez pas, c'est certain que ça ne vous semble pas intéressant, par définition. Mais si vous laissez les vieux agir, ils agiront malgré vous. Voilà, ça c'est sûr. Bon, eh bien, merci de votre attention. Et votez bien. Merci.